Dans cette release de CPU, une estrade, une audience professionnelle et des flashs qui crépitent. Bienvenue à notre conf de rentrée 2019. Nous recevons Nicolas de Coaster, l'équipe aujourd'hui Solarus, Philippe Martorel, Élise Rigaud, Infested Grunt Enflammé, René Speranza et Dasritch. J'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux. Ok, c'est parti. Bonjour Nicolas de Coaster, bonjour à l'équipe de CPU présente ce soir, bonjour à tous ceux qui sont pour cette séance d'enregistrement au Theta Lab, qu'on remercie. Et merci d'ailleurs au Theta Lab, merci aux équipes de Mixar Miris. Nous enregistrons ce soir lundi 9 septembre pour notre conférence de rentrée. Et donc bonjour à toi ami auditeur. Je remercie tout le monde pour votre soutien qui fait que cette émission continue, alors que la préparation de chaque numéro demande un rythme très soutenu, en plus de nos jobs réguliers à chacun, quand même, faut l'annoncer. À mon grand regret, par exemple, on s'est quitté un peu brusquement en juin dernier. On avait une émission à qui il manquait 10-15 minutes et qui était dans le ton juste avant l'été. Et ben, ça tombe bien, ça nous a permis de rajouter des trucs en plus qui le font vraiment. Et ça, on en parlera puisqu'on va la diffuser la semaine prochaine. Donc, je ne peux que remercier tout le monde dans l'équipe et évidemment Radio FMR, sponsor de mes élucubrations radiophoniques depuis fort longtemps, c'est-à-dire 1993, à l'époque j'avais encore un Amiga, c'est vous dire. En cette saison du Mercato Radio, je dois aussi remercier ceux sans qui j'aurais bien du mal à vous livrer régulièrement une émission avec un minimum de qualité. Ils ont quitté l'équipe pour de nouvelles aventures. Sol Pandelakis, qui a reçu des responsabilités supplémentaires en plus de ses cours de design à l'université Jean Jaurès, ce qui ne lui laisse plus de temps pour assurer Killed by App, malheureusement. Anthony Mazur, qu'on félicite aussi pour sa nomination comme directeur de la recherche à HID Genève, l'Haute École d'Art et Design. Tiens, c'est un cas où un prof du Mirail va faire de l'exil fiscal en Suisse. C'est plutôt une première. Eugène Lowe, qui malheureusement n'est pas libéré de ses obligations par l'hôpital psychiatrique. Il est toujours chargé des bases œuvres au sein de l'association Combustible et je me demande si c'est une bonne idée de lui laisser d'ailleurs des allumettes. On fait la bise aussi à Thomas Gasque qui est temporairement en pause malheureusement et à Marc Ollagnier dont on souhaite toujours le retour au plus vite. Le service météo se languit sans lui. Mais heureusement, on a trouvé de quoi le remplacer. Mais ça, vous le verrez tout à l'heure. Ils sont toujours dans l'équipe cette année, Infested Grunt, avec notamment un dossier dans les starting blocks sur la... Non, pas la bière, la 5G s'il vous plaît. Le prochain standard de téléphonie mobile, et si le grand public a entendu parler de la guerre hallucinante entre les États-Unis et Huawei, oui, puisque maintenant les États-Unis préfèrent faire la guerre aux entreprises, ils ont plus de répondants, il y a bien plus à dire sur cette techno. Et d'ailleurs, encore, on a eu des infos assez intéressantes dans l'après-midi. Megami Yume... qui, après un galop d'essai, eh ben, souhaite intervenir plus fréquemment. Et nous aussi, ce serait cool. Solarus qui revient après une petite mise entre parenthèses. Et ça tombe bien, il est là. René Speranza, le bien-aimé président dictateur général de l'association de préservation du numérique Silicium, avec qui on va être amené, j'espère, à collaborer plus cette année, avec notamment deux cycles sur deux pays de la micro, dont un qui est en attente parce qu'on ne sait pas vers où va le Brexit. Et l'autre, eh ben, je crois qu'il a un championnat du monde de Sasquatch, non, d'un truc un peu plus violent, de rugby, oui, c'est ça. Et autre chose après l'année prochaine. Enflammé qui revient pour son sujet totalement différent en avril prochain. Et oui, je sais ce qu'il y a déjà au menu. Et je peux vous dire une chose, ça se mange. Chris O'Brien qui risque de refaire très vite de nouvelles apparitions. Et Gaël Cérès qui m'a proposé un sujet sur Quant, mais comment dire ? Il y a eu comme un drama cet été entre le moteur de recherche français et Jean-Marc Manac chez Next Impact. Donc pour l'instant, il y a comme un petit blocage. On se dit, non, on va pas y aller de suite quand même. Et il faut souhaiter la bienvenue à ceux qui rejoignent l'équipe, à savoir Philippe Martorell, entre autres de Tétalab, mais surtout de Planète Science, qui propose un projet à l'origine, en dehors de l'émission, l'agenda de la bricole toulousaine. On va en avoir un premier extrait tout à l'heure, en fin d'émission. Élise Rigaud, thésarde des professeurs de design à l'université Jean Jaurès, qui propose une série de 10 émissions, Bio is the New Black. C'est ambitieux, et dès le premier épisode, eh ben déjà c'est franchement très bon. Et Baptiste Robert, alias F-Society, qui analysera dès la semaine prochaine un spyware utilisé par la République populaire de Chine pour harmoniser, tout en violence sociale, la minorité ouïghour. Je ne sais pas s'il compte y passer faire des vacances. Cette année, on va avoir plusieurs cycles d'émissions, donc Bio is the New Black, je viens d'en parler. Non, tu préfères quand je le fasse avec la voix. Bio is the New Black. C'est ça. La conquête spatiale, celle d'hier et de maintenant, où l'on parlera aussi bien de CubeSat, c'est-à-dire des espèces de Rubik's Cube qu'on envoie là-haut, que de la mère de toutes les démos, l'autre grande révolution de 68. Après un an et demi de préparation, donc je peux vous dire que je l'attendais depuis un bail, celle-là. Et une sur le son numérique, pour fêter l'arrivée de Radio FMR sur la radio numérique DAB+, dans l'agglomération toulousaine, normalement cet hiver. Je sais, ça va dégeler un petit peu dans les foyers, non, vous en foutez. Mais vous vous rendez pas compte, mais pour nous ça signifie beaucoup, puisque ça veut dire que quand l'émetteur de Radio FMR tombera en panne, il y aura 7 autres radios dans la merde, donc ils vont se presser pour le dépanner. CPU, carré, petit, utile. Je vous avais parlé d'une nouvelle série, voici son auteur, Élise Rigaud. Élise, bonjour.
Bonjour.
Alors Élise, s'il te plaît, ben, présente-toi.
Alors, je suis doctorante en design à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Je fais une thèse sur les technologies de biofabrication et design. Voilà.
Tu m'as approché, pile à temps d'ailleurs pour cette saison, avec une série ambitieuse, Bio is the New Black. Alors d'abord, franchement, une question juste comme ça, mais pourquoi ce nom ?
Alors, ce nom parce que le bio, notamment et partout déjà, pas que dans les épiceries de quartier, pour reprendre ta petite phrase, mais surtout aussi parce qu'on le voit comme une injonction à penser par la biologie et par le vivant aujourd'hui, et non plus par une façon, on va dire, form for the function, qui est une façon plus classique de penser en design. Aussi parce que c'est une façon pour moi d'aborder beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur autour justement des technologies du vivant et du design et qui sont peu abordées en France. Mmh.
C'est quand même, tu es arrivé avec un projet qui était assez ambitieux, 10 épisodes avec déjà des intervenants, déjà donc une ligne bien déterminée, 10 invités. Juste une question comme ça, tu adhères à combien de fan clubs ?
À aucun.
Mais déjà, comment tu les as choisis, en fait, ces intervenants ?
Ce que j'ai choisi pour Bio is the New Black, du coup, c'est de partir de ce sujet donc, de biofabrication et design et d'essayer de le traiter à travers des objets, voire parfois de fiction, en fait. Mmh. Par exemple, qu'est-ce qu'un humain sur puce aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire de ces objets complètement bizarroïdes qui sont créés par la science et qui, demain, seront des inventions courantes sur un marché ? Mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire d'intervenir en tant que designer sur des questions de biotech, de biologie synthétique, par exemple, pour inventer, pour spéculer sur des futurs. Et à chaque fois, l'idée, c'est de partir d'une thématique et de trouver la personne qui potentiellement en parle le mieux et surtout qui a travaillé sur ces sujets-là. Mmh. Pas seulement quelqu'un qui, du coup, pourrait en parler d'un point de vue extérieur, mais potentiellement le designer qui touche à ce sujet-là. Et voilà. Et après, c'est du réseau. Mmh. C'est un petit monde.
Et je crois que, en fait, si tu voulais vraiment essayer le format podcast, il y avait une raison particulière à ça ?
Oui. La raison, du coup, d'utiliser le podcast et, du coup, la radio en même temps, avec Radio Éphémère, c'est que l'oralité n'est pas quelque chose qui est si privilégié que ça dans un format de recherche. Et l'écriture d'articles va être vraiment celle prépondérante à l'académisme ou l'oralité, mais une oralité de fac, en fait, où il faut aller se rendre à certaines journées d'études ouvertes pour un public soit étudiant, soit de chercheur, que durant des, bah, des horaires où tout le monde travaille. Et le podcast,
comme par hasard, oui.
Et le podcast permet de rendre ça écoutable par tout un chacun, potentiellement aussi par mes étudiants qui auront peut-être plus envie d'écouter ça le soir dans leur lit que de venir à la journée d'études et de se tartiner peut-être tous les intervenants.
Et il faut encore des petites histoires pour ces gamins-là, ben, bravo.
Voilà.
Moi, en tout cas, j'ai pu écouter la première, forcément, hein, puisqu'on l'a montée. Y a des choses vraiment pas mal. Qu'est-ce que tu comptes nous faire découvrir tout au long de cette série ?
Alors, question compliquée. Vers les chemins vers lesquels j'aimerais aller, dans un premier temps, c'est de parler de designers qui sont peut-être pas connus en France, notamment designers qui font du design spéculatif et qui sont assez critiques aussi par rapport à ce qu'ils en font. Aussi, ce que je compte faire écouter en France, c'est peut-être des projets de recherche qui ne sont pas encore tout à fait du design, dans le sens où ce n'est pas une production massive, mais qui, dans un futur peut-être très proche, seront des objets très courants et de pouvoir avoir une anticipation, une réflexion assez critique en amont. Et donc on va aller, moi j'invite des philosophes, des designers, des scientifiques, des historiens à réfléchir ensemble à ces questions-là.
Et qu'est-ce que tu aimerais que l'auditeur, quand il arrive à la fin de l'émission, qu'est-ce qu'il va en retenir ou qu'est-ce qu'il a envie de faire ?
Alors, j'espère qu'il aura envie, s'il est designer, de faire des projets sur ce sujet-là qui font du sens et pas foncer tête baissée sur des sujets à la mode sans réfléchir ce qu'il fait. Et s'il n'est pas designer, j'espère qu'il aura envie de connaître mieux ce monde-là, voire de bosser avec des designers pour réfléchir à des sujets qui peuvent être hyper complexes et te rendre compte que un designer, ça fait pas que des jolies chaises, que des jolies tables et que des trucs qui entre guillemets, ça va à rien, mais que ça peut vraiment concrètement changer la façon dont on pense à un projet technique.
Mmh. Ok, merci Élise. La première de ta série est normalement dans 15 jours, sauf erreur, puisque je crois qu'on va la diffuser, ce sera le 29 septembre.
26,
oui, pardon. C'est le 26, donc le premier invité.
Le premier invité, c'est David Benke, qui est un chercheur et designer anglo-saxon. Il est en train de finir sa thèse, qui donc une pratique du diagramme pour sourcer les algorithmes prédictifs. Ça se mord un peu la queue, et c'est des diagrammes donc, qui racontent d'autres diagrammes d'algorithmes prédictifs, et c'est ce mec est vraiment talentueux.
Rien qu'à voir d'ailleurs, tu m'as conseillé d'aller sur le site de sa thèse, c'est magnifique, c'est vraiment de l'infographie, enfin
c'est de très grande qualité.
C'est
du data,
c'est la présentation de data, c'est vraiment stupéfiant, c'est assez génial. Et puis en plus, ça va tranquille, hein. Vous savez que vous avez enregistré déjà ?
On a enregistré pour la petite histoire à la Goldsmiths University, j'avais pas du tout de plan, oui, à Londres, pas du tout de plan de studio, et puis David voilà, nous a trouvé les petites clés du studio très tranquillement, on était plutôt bien.
Ça va, cool, cool, franchement. Merci Élise.
Merci à toi.
Taïkonauts, Fatal Radiation Overdose, extrait de la compilation FMR 2018, partie anthologie. Si on faisait une petite revue de presse avec, pour commencer, malheureusement, la disparition de Linux Journal. Alors, Linux Journal, c'est un site qui a longtemps été une référence dans le secteur informatique par le niveau d'écriture de ses articles. Il fut le premier magazine papier qui se soit dédié à Linux en 1994. Support qu'ils ont remplacé par une version exclusivement web en 2011. Mais voilà, les articles extrêmement fouillés, des fois sur comment marche le connecteur son ALSA ou la gestion de mémoire à l'intérieur du kernel, eh ben ça demandait un temps monstre à écrire et ça ne pouvait garantir malheureusement d'emploi à plein temps ni continuer à louer leurs locaux. L'entreprise s'arrête donc, ainsi que ses publications. Néanmoins, les archives en ligne resteront consultables à l'adresse linuxjournal.rocks. Un autre journal qui disparaît, là aussi, c'est Make Magazine. C'était LE magazine des années Fab Lab. Celui où on apprenait à transformer un magnétoscope en distributeur à croquettes pour votre chat et plein d'autres projets marrants expliqués pas à pas et d'une manière vraiment plutôt bien explicative et très didactique, très bien fichue. Malheureusement, la société Maker Media, la société derrière Make Magazine et la Maker Faire, les événements affiliés, a brutalement licencié ses 22 salariés en juin dernier suite à des problèmes économiques et une réduction drastique de leurs opérations. A noter que la Maker Faire, le groupe de festival de Fab Lab, lui, existe toujours, tout comme le site web. Ce n'est que la publication papier qui disparaît et le programme télé qu'on n'a d'ailleurs pas vu en France. Et à noter que les articles du magazine resteront accessibles sur leur site web makezine.com, du moins pour les textes en anglais. J'ai pas d'infos pour les traductions françaises pour l'instant. Un journal qui existe encore, lui, par contre, celui-ci, c'est Planète Robot, numéro 59 de septembre-octobre 2019. C'est un bimestriel vendu 6,50€ en kiosque avec des articles qui sont assez sympas, donc notamment les drones capables de voler et de nager ou encore des robots à petit prix et tout ça, mais c'est pas vraiment ça qui m'a intéressé dans ce journal. Il y a notamment un très bon dossier sur la robotique industrielle, sur la robotique qui déploie ses ailes dans l'industrie aéronautique. Je me demande pourquoi on en parle ici à Toulouse d'ailleurs. Même si c'est pas spécifiquement Toulouse, en tout cas c'est assez impressionnant justement. C'est des engins industriels qui font quand même sacrément une certaine taille, mais surtout un très bon dossier qui est plutôt modeste, hein, qui fait que 6 pages, mais qui vaut vraiment la lecture. Que deviennent les robots lorsque leur concepteur met la clé sous la porte ? Et là, vous allez me dire, ça devient vraiment intéressant, puisque du coup, c'est vraiment une analyse critique sur justement sur la robotique qu'on met à disposition du particulier, avec donc c'est l'exemple assez illustré de Nabastag qui a coulé pour différentes raisons et surtout comment Nabastag était conçu, puisque c'était un robot qui ne marchait qu'en dialoguant avec les serveurs. Et on apprend d'ailleurs justement, il y a une très bonne interview de son créateur Olivier Mével qui dit qu'à l'époque, eh ben, il n'y avait pas Amazon Web Service et qu'ils avaient un énorme problème, c'était tout simplement la scalarité, c'est-à-dire plus ils vendaient de petits lapins et moins leurs serveurs pouvaient répondre à la charge, et donc ça leur coûtait de plus en plus cher à force. C'est un peu ce qui les a coulés. C'est vraiment intéressant de ce côté-là. Et d'un autre côté, justement, tous ceux qui essaient de sauver ces différents robots, soit en essayant, en changeant la carte électronique dedans, soit en mettant un logiciel à part, soit en reproduisant, en faisant du reverse engineering du serveur d'origine pour essayer de les relancer. Il y a plein de trucs assez intéressants justement sur ce qui s'est passé sur Nabastag depuis. Ça fait quoi ? Ça fait 10 ans hein, maintenant qu'ils ont mis la clé sous la porte, et bien qu'il y en a encore qui produisent des pièces détachées ou qui expliquent comment mettre dedans un petit Arduino et les programmations à faire dedans. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est pas mal du tout. Alors c'est pas en une du magazine, et c'est dommage, ça aurait pu être dans le sujet. Donc le magazine c'est Planète Robot, le numéro 59, septembre-octobre, est actuellement en kiosque. Oui, parce qu'il n'y aura pas de rediff pour cette émission, donc je peux dire actuellement. Ouais, je sais, c'est pas une rentrée très folichonne de parler comme ça des projets qui meurent et tout le reste. Mais néanmoins, l'événement littéraire de la rentrée, c'est Mémoire vive d'Edward Snowden, Permanent Record, sortie mondiale. Alors, il y a une sortie aux États-Unis le 17 septembre. Il arrivera en France le 19 septembre, ce sera aux éditions du Seuil. Et entre les projets d'identité numérique qui sont préparés en France sur les exemples de ce que peuvent faire d'autres pays, notamment les États-Unis et la Chine, ou l'implémentation de prédictions de comportement sur les caméras de vidéosurveillance de Toulouse, inutile de vous dire que Snowden n'aurait pas dû être oublié si vite du grand public. Donc on attend de voir, puisqu'on n'a même pas eu de bonnes feuilles ni quoi que ce soit pour l'instant. Donc il va sortir la semaine prochaine, je pense que ça pourrait faire du bruit, parce qu'on sait qu'il n'a toujours pas livré l'intégralité des documents, et ceci d'ailleurs suite à la fermeture du groupe qui s'occupait des documents Snowden, justement pour vérifier les infos qu'il y avait derrière, et les publier pour la presse, donc ça reste à voir ce qu'il y a derrière. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Nicolas de Coster, alias Ogadaki, animateur à la Compagnie du Code, développeur à Magellium et cofondateur de la Compagnie du Code. Sauf erreur, on avait reçu l'an dernier un certain François de Rochebrune. Je crois que lui aussi, il est derrière.
Oui, voilà, ouais, c'est un projet. En fait, c'est une coopérative, donc ça a été construit par plusieurs personnes. Donc voilà, il y avait moi, François, puis encore d'autres personnes qui sont à l'origine de cette coopérative.
J'espère qu'il ne nous boude pas trop depuis son interview. Tu es là parce qu'il y a un événement que vous avez lancé qui est le DevFest Pichoun. Alors d'abord, pour commencer, qu'est-ce que le DevFest ?
Alors le DevFest, c'est une conférence organisée par des développeurs pour d'autres développeurs, donc qui a lieu tous les ans à Toulouse à l'automne. Donc ça doit faire la quatrième année là. Donc voilà, c'est vraiment proposé par des passionnés du code, du développement pour d'autres... pour d'autres passionnés, quoi. Donc, c'est ça l'esprit du DevFest, quoi.
Et le DevFest, c'est un événement qui est sous licence. Hein. Ça a lieu dans plusieurs villes. Je crois qu'il y a Nantes qui va en faire un la semaine prochaine, si je me trompe. Et donc, DevFest Toulouse qui aura lieu début octobre. DevFest Toulouse, ça existe depuis combien de temps ? T'as une idée ?
Donc, 4 ans, ouais.
4 ans.
C'est la quatrième édition de DevFest Toulouse, ouais.
À côté du programme principal, il y a DevFest Pichoun. Alors, qu'est-ce donc ?
Alors, DevFest Pichoun, c'est...
Il faut peut-être déjà définir à nos amis parisiens qui peuvent nous écouter ce que c'est qu'un Pichoun.
Un Pichoun, c'est un schtroumpf, c'est un gamin, c'est les plus jeunes, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est pas les professionnels de l'informatique. Là, c'est Voilà, en fait, c'est l'idée derrière le DevFest Speedtune, c'était de se dire, il y a une conférence organisée par des développeurs professionnels, pour d'autres développeurs professionnels adultes, pourquoi ne pas faire la même chose avec les enfants? Donc, c'est l'idée vient dans l'équipe organisatrice du DevFest, donc avec Aurélie Vache qui est aussi en contact avec la compagnie du code, en voyant ce qu'on faisait. Enfin, voilà, on s'est dit que ce serait pas mal de faire un événement à côté du DevFest destiné aux enfants. Donc, il s'agit d'abord d'un atelier donc pour les enfants, enfin sous le format coding goûté. Enfin, le coding goûté, c'est un format où l'enfant vient avec un de ses parents et découvre le code ensemble. Donc, c'est un atelier. Et ce qu'on voulait faire aussi, c'est de remettre un peu l'esprit du DevFest, mais pour les enfants, c'est-à-dire des conférences pour faire découvrir sa passion ou ce qu'on fait en tant que développeur. Voilà, donc cette année, on va tester ce format-là où des enfants vont faire une mini-conférence avant l'atelier. Alors l'atelier, c'est un atelier Scratch assez classique, entre guillemets, mais avant ça, il y aura des mini-conférences par des enfants, pour les enfants et puis pour les parents qui seront là
Je
aussi.
Je m'inquiète un petit peu parce que déjà, dans ce genre de conférences, de journées de conférences pour les développeurs, en général, ils ont des petits jouets genre pour gamins. Alors là, pour les gamins, qu'est-ce qu'on leur offre? Des sucettes, des trucs comme ça?
Alors après, il y a toujours c'est un coding goûté, donc il y aura la partie goûtée et puis il y aura sans doute aussi des petits goodies pour les gamins. Ouais.
Donc les conférences, c'est qui les anime?
Donc ce sera des enfants. Donc là, le programme est en train de se travailler.
Et déjà une idée de quel sujet
Alors c'est pas encore décidé complètement, mais parmi les sujets
excuse-moi, mais je me rends compte, j'ai oublié une question complètement stupide, mais define enfant. C'est juste, c'est de quel âge à quel âge?
Alors là, pour cet atelier-là, c'est à partir de 9 ans.
D'accord.
Voilà, après, il n'y a pas d'âge.
Donc on n'aura pas un gamin de 6 ans qui va nous parler des trous de sécurité par un débordement de piles,
c'est à partir de 9 ans. Donc, mais par contre, il pourrait y avoir des gamins qui parleraient de ça. Là, en particulier, il y en a un qui, parmi les propositions qu'il y a eu, c'était... un gamin qui a développé un petit bot en JavaScript pour, je sais plus, c'est pour Slack ou Rocket Chat, un truc comme ça, quoi.
Donc
ça peut aller sur des sujets quand même un peu avancés, mais bon, voilà, c'est.
Ah, ça va être.
En fait, l'idée après, c'est au-delà de cette première expérience, de voir si on répéterait pas ce format-là, et là, du coup, vraiment ouvrir à tous les sujets que des enfants qui codent pourraient avoir envie de partager, soit leur expérience, soit une technique qu'ils connaissent, et voilà, essayer de voir si on peut faire ce genre de format.
Ça va être enregistré, je veux dire, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, je veux dire, pas forcément des pédophiles, hein, aussi les chasseurs de tête, non, c'est la même chose, mais je veux dire, c'est les obsédés, je veux dire, il y aura possibilité de les voir
Je sais pas si c'est prévu, je dirais que non pour l'instant, mais, puis en plus c'est la première fois, donc non, je pense que ça sera pas enregistré, ouais.
D'accord. L'atelier en lui-même, on avait parlé justement dans l'émission l'an dernier sur ce que c'était qu'un coding goûté. Donc en fait, il s'agissait de faire une espèce de labyrinthe, c'est ça?
Alors.
Du coup, l'atelier, ça va être quoi? Ça va être la même chose ou c'est une forme de.
Alors, quand on a discuté avec l'équipe du DevFest et en particulier avec Aurélie sur ce qu'on allait faire. Une des possibilités, c'était de refaire ce classique qui marche toujours bien pour découvrir ce que c'est le code. Et là, en fait, on est parti sur autre chose. Justement, l'atelier que j'avais déjà fait avec Aurélie à Continental, qui consiste à programmer une voiture virtuelle dans Scratch, faire une voiture autonome dans Scratch. Donc voilà, l'idée, c'est faire que la voiture se déplace toute seule dans un circuit dans Scratch. Donc voilà, il y a un thème un peu particulier.
Scratch.
Ouais, avec Scratch.
D'accord.
Donc, on l'a déjà pratiqué il y a un an et voilà, on va voir ce que ça va donner là. Et c'est pour ça que c'est à partir de 9 ans cet atelier-là, parce que c'est un petit peu plus compliqué que le labyrinthe.
Alors, finalement, c'est un peu comme ce que vont faire papa et maman à l'étage du dessous. Maman et papa, je la refais. C'est un peu comme ce que font maman et papa à l'étage du dessous, quoi. C'est juste, vous allez voir la vie professionnelle, ça peut être cool.
Alors, non, justement, on va pas voir par le côté professionnel. des choses. C'est vraiment ce qui peut, enfin, voir que développer, faire du code et partager aussi sa passion, ça peut être cool. Voilà. Donc c'est en ce sens-là que c'est en effet comme on peut faire papa et maman à l'étage du dessus ou du dessous. Ouais.
Faut-il avoir un niveau technique pour un parent pour accompagner son pitchoun à la DevFest?
Non, pas du tout. Non. Justement, l'idée c'est aussi de découvrir ensemble. Donc non, il n'y a aucune exigence technique pour les parents. Non.
Alors, je pense qu'il y a une préinscription. Hein,
ouais, tout à fait. Ouais.
On est lundi 9, donc on est diffusé dans 3 jours.
Ouais.
Il reste encore des places?
Oui, il reste des places, ouais. Ouais. Ouais,
une petite idée du prix?
Le nombre de places qui restent, enfin.
Ouais, le prix. Pour
le prix, c'est gratuit, hein, c'est un événement gratuit.
D'accord. Et il faut venir avec du matériel ou il y a déjà du matériel?
Alors, il y aura des ordinateurs qui seront mis à disposition, mais les gens peuvent venir avec leur ordinateur s'ils veulent. Quoi.
D'accord. Malheureusement, le parent qui accompagne ne pourra pas assister à la conférence React Native, dépression ou dette technique. C'est un mal ou vous avez prévu une solution de secours?
Bah, il y aura toujours les vidéos du DevFest adulte qui seront... le DevFest est enregistré, la version adulte, donc ils pourront toujours les voir après coup. Quoi.
La version adulte.
Voilà.
Non, tu peux pas regarder ça, petit. Toutes les infos donc sur le site 2019.defesttoulouse.fr. C'est un one shoot ou c'est dans l'idée, il y a peut-être, si ça marche bien, peut-être le refaire?
Ah oui, je pense que ça va se refaire, ouais. Enfin, en tout cas, c'est l'idée du truc, ouais.
L'idée du truc, ouais.
D'expérimenter là pour voir avec l'équipe organisatrice, enfin, eux qui voient un peu ce que c'est ce format-là et pour ensuite construire la même chose d'autres années, aller un peu plus loin. Pourquoi pas d'ailleurs refaire, là s'il va y avoir 2 conférences de 15 minutes par des gamins, pourquoi pas les autres années faire vraiment l'après-midi avec différentes conférences, voilà, creuser un peu plus cette partie conférence, quoi.
Alors, question totalement indiscrète, t'étais pas obligé de me répondre. Nicolas Decoster, t'as déjà fait ta reproduction ou non?
Non.
Donc, tu essaies les enfants des autres avant.
Ouais, ouais, voilà.
Ça,
ouais.
C'est pas mal comme idée. Merci d'être venu. En tout cas, l'idée est franchement marrante et on vous souhaite que ça va franchement être sympa pour tout le monde. Parce que sinon, c'est pas drôle, quoi.
Ouais, ça devrait être sympa. Et merci.
Merci. She Spell Solitude, bande originale du jeu Octaédron. C'est la séquence des questions des audilecteurs. Alors, parmi les questions que j'ai reçues quand même quelques-unes, pourquoi garder ce jingle CPU ? C'est horrible, il reste dans la tête. Alors le jingle, c'est Jumpsuit de Alpine Star, et à vrai dire, il a été choisi 48 heures avant la création, avant la diffusion de la première émission. Et d'ailleurs, c'est notre actuelle présidente de la radio qui a fait la voix derrière. Et oui, il reste dans la tête. Et c'est bien pour ça que je le garde, c'est qu'il marche très bien ce jingle. Alors vous allez peut-être l'entendre dans l'émission, mais au bout d'un moment, il y a un morceau qui s'appelle Starshide, qui a failli être utilisé dans le générique de la saison 2 de CPU. Et puis finalement, j'ai eu un moment de doute et je me suis dit, non, on va rester sur celui-là. Donc je fais une spéciale dédicace à un mec qui m'a dit « C'est hyper dangereux quand tu conduis à vélo parce qu'il surprend beaucoup ce jingle. » Coco, je te signale que mettre un casque à vélo, c'est interdit. C'est une amende de, je crois, de 3ème classe, 230 euros. Deuxième question, pourquoi vous n'êtes pas sur YouTube ? Alors la radio, c'est cool parce que ça fait travailler ton imagination. Non, je déconne, j'ai pas le matos. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est quand même plus rapide de faire une émission de radio et à gérer plutôt qu'une émission vidéo où il faudrait au moins deux caméras et des interviews de 45 minutes. Voire on a des interviews qui durent 1h30. Au bout d'un moment, je pense que ça vous userait beaucoup quand même sur YouTube, alors que c'est quand même plus drôle. En son pur, ça vous permet de travailler à côté ou de faire autre chose, hein, par exemple faire le lit. Ça c'est pas une question des audilecteurs, mais donc c'est juste une petite remarque qui est personnelle, c'est que CPU, on ne fait pas que l'émission de radio, il y avait toute une idée derrière. Il était question aussi de relancer une radio streamée fille de radio éphémère, ce que finalement on n'a pas pu lancer dans les temps, mais on a aussi fait un player audio et que l'on a pas mal reskiné, et il y a eu pas mal de boulot d'ailleurs depuis le printemps jusqu'à cet été. Donc le player audio a été revu. Alors pourquoi il est intéressant ? Le projet est open source, donc on le repropose à côté, mais surtout maintenant, si vous allez dans une série, si vous naviguez par tag, vous avez le player audio qui est disponible, et si vous mettez en lecture, il va suivre séquentiellement chacun des épisodes, c'est-à-dire vous créez une playlist dynamique, et vous pouvez réécouter des choses, et si jamais vous devez partir ou un truc comme ça, le player, quand vous rouvrirez la page, se remettra à l'endroit que vous écoutez, et ça c'est plutôt cool. Groove, Starchild, bande originale de la démo Literae Finis de Trauma. Cette musique a failli être le générique dans la saison 2 de CPU. Continue l'agenda avec René Speranza, président dictateur général de l'association Silicium de préservation du numérique. Non, mais ça, c'est pas une vieille bécane, là. Tu peux le cacher, là, s'il te plaît ? Non, tu t'en... Ok. Bonjour, René.
Bonjour.
J'espère que tu vas bien. On a eu cet été, tu nous as suggéré de venir vous voir à l'Apple II Festival France. Et franchement, on s'est éclaté. C'était un chouette événement. On a enregistré deux émissions cet été, l'une sur l'Apple II et une autre sur les jeux de stratégie. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de ce que c'est l'Apple II Festival ?
Alors, l'Apple II Festival, c'est une manifestation incongrue, en fait, qui célèbre l'ordinateur Apple II. Donc c'est un ordinateur 8 bits que les plus vieux comprendront et qui a plus de 40 ans, je crois. Il est sorti en 1977 et c'est le célèbre Woz qui l'a fait. Donc ça, c'est important, très important même. Et donc il y a quand même un fossé entre cet Apple II et puis toute la production Macintoshesque et néanmoins Steve Jobsienne qui est sorti après. Donc cet ordinateur a vécu de nombreuses années, il a évolué parce que Jobs était un créateur génial et il a su insuffler à cette machine des possibilités évolutives très intéressantes qu'on trouve pas ailleurs, quasiment, à part peut-être sur les PC, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc,
t'as pas vu le buzzer d'un Amiga, toi?
Non, un Amiga, non, non. Alors, on peut pas parler de Commodore parce que c'est trop triste. Mais bon, donc, 40 ans après, les Américains, parce que bon, il vient de là-bas, ce brave ordinateur, et puis les Américains continuent de faire des conventions. Alors, c'est au Kansas, je sais pas pourquoi. Peut-être pour être un peu au milieu. Et en fait, au Kansas, il y a tous les ans, alors ils font venir les vieilles barbes, il y a eu Woz qui est venu, tout ça. Ah, le bus, on me pose une question, le bus 1600. Alors le bus 1600 aussi, c'était une très belle invention, qui était antérieure d'ailleurs, parce que...
C'était sur le Micral, si je me trompe ?
Non, c'était sur l'Altaïr et tout
ça. Ah, putain, ouais. Quel con. Ouais. Donc, pour en revenir, donc, il y a une convention aux États-Unis. Voilà, d'ailleurs, on y voit le Woz de temps en temps.
Oui, il y est déjà allé. On l'a invité d'ailleurs à notre convention. Et donc, nous, on s'est dit, il y a 5 ans de ça, on pourrait faire pareil, parce qu'on n'est pas comme ça. Et le Kansas s'est perdu, donc on a décidé d'aller dans notre cœur de silicium et on est allé dans le Gers.
On s'est perdu, il y a le magicien d'Oz dans le Kansas.
Ouais, mais bon.
Référence qu'on prenne qui pourra. Combien il y avait de personnes à peu près
Une centaine. Alors, ce qui est étonnant, c'est que donc, dans le Gers, là c'est à Auch, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capitale du Gers.
Et ceux qui ne sortent pas de Toulouse.
Ouais. Ou d'ailleurs, ou les nouveaux arrivés, les fraîchement arrivés. Et donc, ça se passe pendant une semaine. Donc, c'est à la campagne, hein, forcément. C'est une ville à la campagne. Et pendant cette semaine, c'est le moment pour ressortir les vieilles machines, faire un point sur les nouveautés, parce qu'il y a plein de choses qui se font, et d'inviter des intervenants pour faire des conférences en tout genre sur le sujet, quoi.
Et puis c'était vraiment marrant. C'est pas le seul événement que vous faites. Il y en a d'autres à côté.
Non, c'est vrai.
Et donc, pour le coup, ben, qu'est-ce que tu as dans ton ZX88 de poche?
Qu'est-ce que je pourrais vous proposer d'intéressant? Alors déjà, en fait, la fin d'année, à partir de la rentrée jusqu'à la fin d'année, c'est souvent la saison des manifestations. Donc on a pas mal de choses
Oui, je sais, les gilets jaunes reviennent.
Ouais, ouais bah voilà, on va
non,
les...
Non, c'était pas ceux-là, pardon.
On va peut-être pas les accompagner, mais par contre, on a deux manifestations récurrentes. Une où on participe, ça s'appelle Scientilivre, que certains d'entre vous peut-être connaissent, qui se déroule au Diagora. C'est une manifestation qui doit avoir dans les 15 ans. Qui est là pour faire un peu la promotion de la science et des livres auprès de la jeunesse. Et donc nous, depuis de nombreuses lunes, on tient stand là-bas, et bon, qu'on propose du jeu vidéo, enfin des trucs, voilà, et qui plaisent. Donc c'est le moyen de venir nous voir pendant le week-end. Après, nous avons une autre manif auquel on va participer, qui va aussi se passer au Diagora. C'est le salon du vintage. Donc ça, c'est un salon...
Dans vintage. Donc qu'est-ce qu'il y avait il y avait 20 ans? Voyons, la Dreamcast, le PC, le Mac.
Bon, pas que ça, hein. Le vintage en tout genre.
Ah d'accord, année. Quoi.
Donc je connais pas trop, mais ils nous ont demandé si on voulait venir participer. Donc on a accepté et on viendra mettre un petit stand avec une petite évocation de l'histoire du jeu vidéo, etc. Donc voilà, pour ceux qui iront visiter, je pense que ça peut être sympa.
Tu vas voir, ça va être comme dans toutes les brocantes, tu vas avoir plein de professionnels qui vont arriver en premier qui vont dire « Je peux avoir ça pour 20 euros ?»
Ouais, c'est un peu ça, ouais, je pense. Mais bon, c'est bien quand même, quoi. Les gens, je pense qu'ils seront contents. Et après, on a notamment le vieux micro. Alors, pour toutes les dates précises, tout ça, ça sera sur le site de silicium.org. Hein. Le vieux micro, qui est notre convention annuelle à l'usage des membres et de tous les amateurs de vieilles machines qui tombent en panne pendant qu'on les utilise. Et donc, cette année, on est en tractation avec Artilect pour essayer de profiter de leur immense hangar avant qu'il ne soit rasé.
Donc, qu'il est rasé en octobre. Donc,
En mars.
En mars. ils ont redécalé encore.
Ouais, il faut qu'on ait une chance de pouvoir faire quelque chose. Ça serait bien qu'ils ne le rasent pas, que les tractopelles n'arrivent pas quand on est dedans.
Oui, c'est bête.
Et donc, dans cette manifestation, c'est l'occasion à tous nos membres de venir de toute la France d'amener des machines sympas, de montrer aux autres.
Voire même des machines complètement rares. On a enregistré une émission là-bas sur un prototype d'une machine qui existait qu'en 5-6 exemplaires.
Ouais, il y a toujours des trucs rigolos.
Des trucs complètement fous.
Donc du jeu vidéo, des petits concours, des animations musicales, etc., etc. Donc ça, le programme est en cours de constitution, une petite conférence ou deux. Ça dure tout le week-end. Et
puis c'est assez resserré. Moi, ce que j'aime bien justement dans le type de manifestation que vous organisez, c'est qu'il y a à la fois le côté nostalgique et en même temps, ben, tu tombes sur les gens qui sont hyper communicatifs sur tout ça.
Ouais,
c'est une énergie incroyable.
Il y a des enthousiastes.
Ouais.
Ça c'est marrant. Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est que il y a quand même l'effet nostalgie, c'est-à-dire avec des jeunes de mon âge, mais au-delà de la jeunesse ancienne, on va dire, il y a tout un pan de jeunes qui sont très intéressés par tout ce qui est jeux vidéo, par leur histoire, par les pratiquer aussi. Ça, c'est cool, quoi, de voir que ça intéresse toutes les générations, quoi.
Ouais, parce qu'en émulateur, c'est pas marrant, c'est trop rapide.
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est complètement cheaté.
C'est ça.
Chez Silicium, vous avez aussi des publications.
C'est vrai.
Alors, est-ce que tu as des bouquins qui vont... des parutions qui vont bientôt arriver?
Alors non, j'ai oublié de dire que je dédicacerai normalement au salon du vintage, parce qu'ils m'ont demandé, et qu'on refuse pas ce genre d'invitation.
J'espère que c'est pas du côté idée vieille avec Eric Zemmour, quand même.
Ah bah écoute, hein, moi je m'adapte. Mais bon. Et ouais, il y a deux choses. Je suis en train de faire un truc que j'aimerais bien... Il faudrait que je travaille un peu pour que ça avance. Alors là, ce serait une uchronie sur l'informatique et peut-être Apple. Et sinon, on a édité il y a de nombreuses années un guide des micro-ordinateurs anciens comme le Superb MSX qui me fait de l'œil.
Dans un coin, ouais, que nos amis du Theta Lab nous ont sorti.
Ouais, ouais, avec.
il a dit non, pas touche. Non, pas touche.
Bon jeu Konami, moi je fais que regarder, tellement c'est beau.
Ouais, il y a quelques Atari ST là dans l'angle.
Ouais,
et les Amstrad CPC, ouais.
Et donc, ce guide des micro-ordinateurs, qui avait été préfacé d'ailleurs par François Jernel, qui est quand même l'inventeur du micro-ordinateur. Rien que ça. Donc ça, c'est cool. Je pense que là, il va falloir qu'on se remue pour le ressortir une nouvelle édition, puisqu'il est épuisé et qu'il ne se passe pas un mois sans qu'on nous en demande un exemplaire. Donc, voilà.
Donc à France, ouais, ce serait un petit peu dommage.
Eh ben oui.
René, merci beaucoup. On retrouve toutes les informations de l'activité sur silicium.org et donc plein de choses et d'ailleurs beaucoup d'infos d'ailleurs qui nous avaient aidé. J'avais parlé de deux pays sur lesquels on avait hésité de faire des suites d'émissions là-dessus. Il y en a un, ben pour l'instant on ne sait pas vers où ça part. Je peux seulement dire que le rôle de Thatcher dans The Crown saison 4 sera joué par Gillian Anderson et Boris Johnson dans saison 6, il cherche encore le clown. Voilà, donc ça donne une idée du pays. Et donc l'autre, ben, c'est surtout un pays de jeux vidéo. Et on a tort de croire que c'est que du jeu vidéo. Il y a des machines assez bizarres.
La Hollande, non ? L'autre pays du jeu vidéo. Ah non, c'est pas le jeu vidéo.
Alors, c'est un pays qui fait rêver tous les geeks. C'est le Japon, bien évidemment. Enfin, tous les vieux geeks, maintenant, ils préfèrent plus rêver de la Chine. Et je me demande pourquoi.
C'est le plaisir de la dictature, c'est quand même vachement plus cool. Quoi. T'as pas à réfléchir, à avoir une opinion politique. Enfin bon...
Ouais, Mac ou PC, là, tout le monde n'a plus le choix. Philippe Martorell, bonjour, et depuis le temps, ça fait combien de temps que tu voulais que tu faisais cet agenda? J'ai retrouvé des traces de toi en 2014-2015.
Ouais, mais il y a eu un gros trou entre cette époque-là et il y a 3 mois où je m'y suis remis.
Ah bah, ça tombe bien.
C'est l'heure de l'agenda de la bricole toulousaine.
Pour les jeunes qui veulent être animateurs, les formations des petits débrouillards sont pour vous les 12 et 13 septembre pour une édition démarche scientifique et le 26 et 27 septembre pour discrimination et préjugés.
Le vendredi 20 septembre, atelier Libérez-vous des GAFAM à la médiathèque José Cabanis. Place très limitée, uniquement sur présinscription et malheureusement elles sont nominatives.
Le samedi 21 septembre, de 14 à 18h, formation brodeuse et plotteur ou fabriqué. Préinscription et 40€ par personne. De même, le mardi 24 septembre, formation CNC, machine à commande numérique, toujours au fabriqué.
Également le samedi 21 septembre, de 14h à 18h, formation d'animateur et médiateur scientifique, c'est à Planète Science Occitanie. C'est uniquement sur préinscription et donc pour 30€ le package inscription à l'association et formation.
C'est aussi la World Clean Up Day le 21 septembre. Ils sont le monde plus propre qu'on ne l'a trouvé.
21 septembre, ça me rappelle un autre type de nettoyage.
Oui.
Sur Toulouse. Le jeudi 26 septembre, soirée ouverte de Toulouse en transition, café bricole, zone de gratuité, fabrication de produits divers, etc.
Le jeudi 26 septembre, la journée conf, intelligence artificielle et data. Soyons dans le concret, chez Microsoft, à Ramonville et sur inscription.
La nuit européenne des chercheurs, c'est vendredi 27 septembre. Ne cherchez pas plus loin.
Toujours le vendredi 27 septembre, dans le cadre du précédent, c'est-à-dire la nuit européenne des chercheurs, la rencontre psychotrope et champignons hallucinogènes, science psychédélique au muséum, et il n'y aura pas de buffet à la fin.
Oh, quel dommage. Du 27 septembre, vernissage, au 26 octobre, c'est le bricodrama ici à Mixar Miris dans le cadre de la Biennale des Arts Vivants International. L'entrée est libre, mais néanmoins, la participation est nécessaire quand on rentre dans Mixar Miris.
Toujours le 27 septembre, la conférence L'Europe bientôt sur Mars à l'Observatoire de Jolimont.
Le samedi 28 septembre, les défis rien de neuf, alternative à la consommation, c'est à la cartoucherie.
Conférence L'Europe peut-elle décrocher la Lune le mercredi 2 octobre à la Cité de l'Espace. Entrée libre, mais sur réservation.
Le DevFest aura lieu le 3 octobre, c'est le festival des développeurs, avec une partie pour les enfants, on en a parlé, c'est le DevFest Pitchoun qui aura lieu la veille, le mercredi 2 octobre. C'est payant et c'est sur préinscription, excepté la partie DevFest Pitchoun, qui elle est gratuite, mais aussi sur préinscription.
Le 5 octobre, et pour toute la journée, la Toulouse Robo Race, course de robots, devant le Quai des Savoirs, le spectacle est gratuit, les participants doivent se préinscrire.
Ça, vous pouvez essayer de venir avec des robots, mais je peux vous dire, il y a quand même un sacré niveau quand même. Hein.
C'est bien évolué.
Il faut avoir bien serré les boulons avant. Du samedi 5 au dimanche 13 octobre, c'est la fête de la science et c'est partout.
Et dans ce cadre, le 6 octobre, le dimanche au bord du lac, à la Rainerie, de 13 à 19h, accès libre et gratuit, buvette et restauration sur place, il y a plein d'activités.
C'est vraiment fun. Le vendredi 18 octobre, Tuto Fest, le festival du tuto vidéo. Pour y accéder, ne manquez surtout pas notre tuto vidéo sur YouTube et mettez-y une étoile, un pouce bleu et la cloche et abonnez-vous à notre chaîne.
Et le samedi 16 et 17 novembre... le Capitole du Libre est le événement du logiciel libre de l'automne. Accès libre et gratuit.
Et non, le call for presentation, bah, il n'est pas en cours. Je l'ai écrit un peu trop vite, celle-là. Toutes les infos sur le site labricoletoulousaine.fr. Néanmoins, c'est pas fini, il y a des appels à proposition.
Puisqu'on parle de labricoletoulousaine.fr, il faut simplement construire ce site. Donc, je cherche un bénévole, webmaster, administrateur, communicant sur réseaux sociaux. Il vous faut me contacter.
Plein d'opportunités bénévoles à Planète Science, développer un robot pédagogique, une nacelle de ballon stratosphérique, une mini-fusée. Là aussi, vous contactez directement Philippe. On donnera l'adresse email, je ne sais comment.
On se débrouillera.
Laissez un commentaire sur la page du site qu'on va publier après.
Planète Science Occitanie aura besoin de beaucoup d'animateurs scientifiques et vacataires le samedi 28 septembre et à d'autres moments. Contactez Bérangère au 05 61 73 10 22, surtout pour vous former au préalable avant ces animations.
L'agenda de l'Abricole Toulousaine a été compilé par Philippe Martorel. Retrouvez-le donc sur le site labricoletoulousaine.fr. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Cette release, l'équipe était composée de Philippe Martorel, Solarus, Élise Rigaud, Infocide Grunt, Enflammé, René Speranza et Daskritch. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. Mille merci aux équipes du Theta Lab et de Mixar Miris pour leur accueil. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Et vous pouvez nous écouter un peu partout dans le monde, même à Chicago. Salut Mickaël. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h pour parler sécurité en pays hostile. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est midi. Nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu avec un petit retour sur l'Expo Rock qui est à Nantes. Et je ne sais pas à Toulouse, mais à Nantes. Mais c'est une suite d'événements justement sur l'histoire, entre autres, de Radio FMR. C'est à toi, Monique.